à tous avec Sud Radio. Nous sommes le jeudi 9 mai, il est 9h.
Parlons vrai.
Le journal Manon Bacour. Bonjour Manon.
Bonjour à tous. Frédéric Valletoux attendu aujourd'hui à Mayotte. Une visite du ministre de la Santé au lendemain de l'annonce d'un premier décès lié au choléra sur cet archipel de l'océan Indien. Un enfant de 3 ans est mort dans le quartier de Kungu. Plusieurs cas de choléra ont été enregistrés ces dernières semaines. 58 cas en tout de cette maladie ont été identifiés à Mayotte, située très proche des Comores, territoire où l'épidémie de choléra flambe. Des civils ont été tués à Gaza à cause de ces bombes américaines. Joe Biden remet en question le soutien militaire des États-Unis à Israël. Il avertit cette nuit qu'il ne livrerait pas certaines armes à Tel Aviv, en particulier des obus d'artillerie, en cas d'offensive majeure contre Rafah. C'est la première fois que Washington pose publiquement des conditions au soutien militaire américain à Israël. Sur le terrain, de nombreux tirs d'artillerie ont visé Rafah cette nuit. L'armée israélienne a, elle, annoncé des frappes contre des positions du Hamas. Au moins 8 personnes ont été blessées cette nuit dans une attaque aérienne ukrainienne sur la ville russe de Belgorod. Des immeubles résidentiels ont été directement touchés. De son côté, l'Ukraine a annoncé des restrictions d'électricité après une nouvelle attaque de drones et de missiles russes hier contre son réseau énergétique, qui a fait au moins un mort et des dizaines de blessés. Boeing dans la tourmente. Un avion cargo de FedEx Express a atterri en urgence hier sur une piste de l'aéroport d'Istanbul. Ce 767 en provenance de Paris a dû réaliser un atterrissage d'urgence car le train d'atterrissage ne s'ouvrait pas. Aucun blessé n'est à déplorer, mais il s'agit d'un énième déboire pour le groupe américain. 3 des 4 modèles de Boeing sont visés par une enquête de l'Agence américaine de régulation de l'aviation civile. Et puis top départ aujourd'hui des relais de la flamme olympique en vue des Jeux de Paris. Pour cette première étape, le flambeau reste dans la cité phocéenne. Elle va déambuler dans plusieurs lieux emblématiques de la ville, de Notre-Dame-de-la-Garde au Vieux-Port, en passant par le Pharo. Une journée qui se terminera au stade Vélodrome. Bonne journée à tous.
Merci beaucoup Manon Bacour.
Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise.
Sud Radio, il est à 9h02. Les débats, dites-le franchement dans quelques minutes avec Elisabeth Lévy qui s'installe pour sa chronique. Et puis Arnaud Benedetti qui sera là également avec nous pour débattre avec Elisabeth. Et puis dans la foulée, 9h30, vous le savez, 0826-300-300. Vous réagissez à l'actualité, vous voulez témoigner de votre quotidien. N'hésitez pas, c'est Aude qui vous attend au standard 0826-300-300. On aura d'ailleurs le témoignage de Mathieu qui avec sa femme ils ont eu 2 filles grâce à la GPA qui est interdite, on le rappelle, en France. Emmanuel Macron a dit de nouveau qu'il n'était pas favorable à l'autorisation de la GPA. Mathieu nous racontera justement son histoire. On fait un point d'ici là sur les questions du jour. Laurie Leclerc, vous êtes toujours avec nous. Première question qu'on vous pose sur notre compte Twitter Sud Radio: le rappeur marseillais Jul qui a été choisi pour allumer le chaudron sur le Vieux-Port, qu'en pensez-vous ?
Majoritairement qu'un athlète aurait eu plus sa place, hein, à 72%. Vous êtes seulement 3% à penser que c'est une bonne surprise. Un clin d'œil aux jeunes à 8%. Sans avis, vous êtes 17%.
C'est Basile Boli qui a récupéré la flamme.
Exactement,
la flamme, ce matin,
qui a lancé le coup d'envoi du parcours olympique à Marseille.
Voilà. Et puis autre question, parents séparés. Emmanuel Macron veut transformer le droit de visite en devoir de visite pour les pères absents. Qu'en pensez-vous là également ?
Vous êtes quasiment les 2/3 à penser que ça ne changera rien. 64%, c'est nécessaire à 9%. C'est à la mère de décider. 18%. Sans avis, 9%.
Et ben voilà, on en parle justement tout de suite avec Elisabeth Lévy. Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy.
Bonjour Benjamin, bonjour Laurie, bonjour à tous.
Bon, Emmanuel Macron donc qui envisage d'instaurer un devoir de visite pour les pères, Elisabeth.
Oui, ça c'est, il le dit dans un entretien vidéo et par écrit à elle, hein, où par ailleurs il rétropédale vaguement sur le cas Depardieu, se soumettant ainsi à la meute qui ne lui pardonnait pas sa défense du comédien, vous vous rappelez, qu'il avait dit « il rend fière la France ». Mais le grand sujet donc de cet entretien, bon, on parlera peut-être après de la PMA, mais c'est le devoir des pères. Écoutez.
Quand il y a un père, ben il faut qu'il exerce tous ses devoirs et que la maman, quand elle est dans cette situation-là, puisse exiger des visites régulières. Elle doit pouvoir s'assurer que le père aussi il est auprès de l'éducation nationale, dans les réunions parents-prof quand il faut, et qu'il est partie prenante de l'éducation de l'enfant. C'est un devoir d'être parent. Et c'est un devoir qui ne s'arrête pas au moment du divorce ou de la séparation.
Alors, je passerai aimablement sur le fait qu'il dit père mais maman, terme qui devrait, je le répéterai, sans cesse être réservé à l'usage privé. On ne dit pas la maman oui. de machin. Pardon. Oui. Par ailleurs, il oublie tous ses pères qui sont privés de droits de visite par des mères et des juges légèrement abusifs qui considèrent que l'homme a toujours tort. Cela aussi mérite peut-être l'attention de l'État. Sinon, c'est un propos qui paraît comme ça de bon sens, hein, parce qu'à l'évidence, les enfants issus de familles monoparentales, c'est-à-dire dans la réalité de mères seules, hein, famille monoparentale, c'est le mot poli, ce sont des mères seules, eh bien, ces enfants risquent plus de basculer dans la délinquance, de ne pas réussir à l'école, etc. etc. Donc, comme le dit le président, hein, un scoop, le mieux pour les enfants, c'est d'avoir un père, une mère, une famille aimante. Oui, et puis ce serait aussi super s'il n'y avait pas de guerre dans le monde, ni de maladie.
Je vous sens un peu ironique, là, ce matin, Elisabeth. Oh, vous n'approuvez pas l'idée du président, là ?
Eh ben non, certainement pas. D'abord, je trouve ça assez curieux de vouloir restaurer la figure paternelle quand on s'acharne par ailleurs, absolument dans tous les domaines, à la destituer, à abolir toute verticalité. La PMA sans père, hein, que le président aime tant, donc qui est réservée à des couples de femmes, bah c'est quand même l'aboutissement de cette logique, si vous voulez. Le père disparaît de la reproduction. Derrière cette prétendue, mais surtout, c'est pas ça le plus grave, enfin si, mais ce qui me paraît encore plus grave, je dirais, c'est que derrière cette prétention du politique à se mêler de morale privée, bien, il y a le rêve totalitaire d'un monde délivré du mal et du mal, d'ailleurs, parce que c'est un peu la même chose, hein, dans le nouvel imaginaire, le mal et le mal. Des gentils, voilà, dans ce monde idéal, des gentils parents élèvent gentiment de gentils enfants, c'est merveilleux. Eh bien, c'est un fantasme de toute puissance démiurgique. La loi peut exiger un ex à payer. Elle le fait, elle peut sanctionner un homme violent, elle ne peut pas obliger les pères et les amants à aimer ou à bien se comporter. Pensez-vous vraiment d'ailleurs qu'un père qui verrait son enfant sous la contrainte lui serait si bénéfique que ça? Alors oui, bien sûr, on peut admettre que c'est mieux pour un enfant d'avoir un père et une mère, et mieux pour la plupart des mères d'avoir un père à leur côté. Bon, d'abord, c'est pas toujours vrai, il y en a qui préfèrent avoir une autre mère à leur côté. Puis il y a aussi des parents toxiques qu'il vaut mieux ne pas avoir dans sa vie. Et puis de toute façon, même si c'est vrai, même si c'est vraiment l'idéal, un papa et une maman, comme on disait à la manif pour tous, qu'est-ce que doit faire l'État? Est-ce qu'on va fournir un père et un mari aux mères seules? Non mais on peut aller loin, hein, comme ça, je veux dire. Et donc, cette prétention de faire le bonheur des gens dans le privé est folle. Et penser que l'État peut et doit réparer les maux de la vie, eh bien c'est justement justifier une intrusion permanente dans la vie privée. Désolé, l'échec, le ratage, l'injustice, la loterie de l'existence, eh bien oui, c'est le cœur de l'expérience humaine. Le rôle de l'État, c'est de garantir le contrat social, d'incarner pour cela l'intérêt général. Ce n'est certainement pas de nous épargner la peine de vivre.
Bon, je note en tout cas l'État comme agence matrimoniale, du coup, c'est ça,
oui. Bah oui, il va falloir fournir, si vous voulez, c'est comme quand on dit le droit au bonheur, ou le droit, vous savez que dans la Convention européenne des droits de l'homme, il y a le droit à une vie familiale normale. Donc je propose que la Cour européenne des droits de l'homme fournisse effectivement des conjoints et des enfants normaux, et puis les chiens aussi si c'est possible, à tous les gens qui n'en ont pas, pour qu'ils aient une vie familiale normale.
Merci à vous, Elisabeth Lévy. Bon, Elisabeth Lévy, nous sommes rejoints par Arnaud Benedetti. Bonjour.
Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, auteur du livre « Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire ». Point d'interrogation aux éditions Michel Lafon. Arnaud Benedetti, vous avez entendu à l'instant la chronique d'Elisabeth sur cette question, voilà, de transformer le droit de visite pour les pères absents en devoir de visite. Réflexion lancée par Emmanuel
c'est
Macron.
C'est plutôt d'ajouter l'un à l'autre,
hier,
parce que
oui,
c'est
d'ajouter,
pas de changer
raison.
L'un pour l'autre.
Vous avez raison, effectivement, Elisabeth. Arnaud Benedetti, est-ce que déjà cette réflexion de la part du président de la République vous a surpris, étonné?
Non, ça ne m'a pas surpris. Si vous voulez, je partage ce que dit Elisabeth Lévy, c'est qu'à proportion que l'État n'est pas capable de remplir un certain nombre de fonctions, qu'il s'agisse des fonctions régaliennes ou des fonctions stratégiques, il se mêle de plus en plus de la vie privée des des individus, des gens, des familles, etc., etc. Quelque part, ça traduit la faiblesse de l'État sur ses socles fondamentaux et le fait que l'État, n'étant plus en mesure de mener des politiques publiques parfois dignes de ce nom, va se mêler de nos vies tous les jours un peu plus. C'est assez inquiétant, ce meilleur de monde qui parfois semble pointer à l'horizon. Mais après, bon, sur le fond, que le président de la République rappelle le rôle des pères dans, j'allais dire, l'éducation et la socialisation des enfants, j'allais dire, c'est une réflexion de bon sens que tout le monde peut partager. Mais ce que l'on a envie de dire ensuite, c'est de savoir, bon, d'accord, mais après, bon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, en l'occurrence? Rappeler le devoir des pères ou exiger un devoir des pères dans l'éducation des enfants, qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour obliger les pères, tout simplement,
comment on l'applique, quoi.
Dans des familles qui sont des familles monoparentales, à assumer leur mission. Ensuite, il y a un autre sujet, c'est vrai, qui n'est pas abordé, et qui est quand même important aussi, c'est qu'on sait très bien que dans un certain nombre de familles, parfois, les séparations se font avec un certain nombre de difficultés, et que parfois, des mères peuvent s'opposer aussi à cette volonté des pères, qui est exprimée aussi, parfois, judiciairement,
de pouvoir
voir leurs enfants. Donc cet aspect-là de la question, il est totalement nié, enfin il est totalement, je veux dire, occulté dans l'interview du président de la République. Mais bon, si vous voulez, moi je pense que c'est, encore une fois, je veux dire, ce qui est intéressant, c'est le support, parce qu'il prend un support de la presse féminine, donc il s'adresse aux femmes, d'une certaine manière, pour rappeler le rôle des hommes, en l'occurrence. Donc c'est véritablement, j'allais dire, de la communication macroniste telle qu'on la connaît. Il essaye de prendre peut-être le contre-pied, mais je ne suis pas sûr qu'après, c'est une réelle efficacité pour la suite, soit en termes de politique publique et dans l'opinion, je crois encore moins en l'occurrence. Ouais.
Elisabeth Lévy, oui, en termes de... voilà, est-ce que c'est applicable ou pas concrètement?
Mais
c'est
non,
vrai qu'on a du mal à l'envisager.
Que ce soit applicable, si vous voulez, excusez-moi, mais il faut arrêter de croire que l'État peut élever les enfants à la place des parents. Donc il y a une aide sociale à l'enfance quand les parents ont été déclarés déchus de leur autorité paternelle ou parentale. Ou que ils existent pas, qu'ils sont pas là, si vous voulez. Et déjà, ça marche pas. Est-ce que vous croyez vraiment que vous allez pouvoir entrer dans les familles et en plus, c'est complètement
totalitaire.
Donc
il
y a des lois, vous payez la pension alimentaire, ok. Vous allez aller chercher les gens pour les amener à la réunion parents-prof. Mais enfin, écoutez, on est. Et par ailleurs, comme je le disais dans ma chronique, si vous voulez, moi, ce qui me fascine, c'est que d'un côté, c'est bien Emmanuel Macron qui s'est enthousiasmé pour la PMA pour toutes. C'est-à-dire la PMA sans père. Je me fiche que les gens...
Forcément, la PMA, c'est pas forcément sans père. Il y a des PMA avec
père. Non, mais là, pour toutes, c'était pour les couples. Je vous assure, laissez-moi finir jusqu'au bout.
Non, mais j'apporte la précision.
Je vous parle de l'enthousiasme qu'il avait pour la PMA pour les couples de femmes. Je veux dire, ça, c'est bien... Alors, évidemment qu'il y a un père quelque part, parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen, la recette de la reproduction et de la fabrication des enfants sans intervention du sexe masculin. Mais, si vous voulez, vous pouvez pas d'un côté toute la journée dire que les pères c'est pas bien, qu'il faut que les enfants c'est les égaux des parents, etc. Puis après pleurnicher en disant il n'y a plus de père.
Oui, alors oui, effectivement, alors sur ce point précis, mais voilà, je rappelais effectivement que la PMA, ça peut être aussi avec un papa et une maman. C'est une question également
un père et une mère, vous voulez dire.
De fertilité. Oui, j'ai compris. Mais je ne suis pas le président de la République.
C'est vrai.
Voilà, c'est une chance pour moi, pour la France. Allez, Arnaud Benedetti, là-dessus, vous vouliez réagir sur cette ambivalence.
Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ambiguïté du côté d'Emmanuel Macron, comme d'habitude. Parce que, par exemple, prenons le cas de la GPA, sujet... qu'un certain nombre de membres de son gouvernement veulent mettre sur la table, je le rappelle, ou en tout cas de proches d'Emmanuel Macron. Clément Beaune est favorable à la GPA. Je crois que Gabriel Attal, le Premier ministre, n'est pas non plus tout à fait hostile à la GPA. Quelle est la ligne politique d'Emmanuel Macron? Certes, il dit s'y opposer, mais dans son propre camp, on voit qu'il y a finalement des avis qui sont assez divergents de celui du président de la République. Le problème, c'est que, si vous voulez, le président de la République, il a été élu en 2017 sur une ligne qui se voulait progressiste, néo-progressiste. Enfin, ce qu'ils appellent le progressisme, qui n'est pas forcément d'ailleurs un progrès en l'occurrence. Et donc, tout ce fondement sociétal, il est à l'origine, d'une certaine façon, du macronisme. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il est en train toujours d'être sur une ligne de crête où il essaye de donner des gages à tout le monde. Et finalement, en donnant des gages à tout le monde, son discours devient assez inaudible parce que tout simplement, Macron fonctionne comme il a toujours fonctionné. Il considère que le marché électoral est, très segmenté. Il s'adresse aux différents segments de l'opinion en fonction des supports qu'il choisit pour communiquer ou des circonstances qu'il choisit pour communiquer. Ce qui fait que, en fait, quand on a un discours qui apparaît très souvent, en l'occurrence, assez inaudible.
Ouais, c'est le en même temps, quoi.
C'est ce qu'on appelle en même temps, en effet. Oui,
oui, voilà, c'est pour reprendre un peu l'expression.
Moi, j'appelle ça une cuillère pour papa, une cuillère pour maman.
Vous voyez,
je dis aussi papa et maman, là.
Voilà, Juste, alors, sur la GPA, sur la gestation pour autrui, alors voilà, c'est faire appel, en gros, avoir recours à une mère porteuse. Je le trouve plutôt clair. Emmanuel Macron, il dit pas question, finalement, de l'autoriser, cette gestation pour autrui.
Vous avez dit la même chose pour la PMA, j'y crois absolument pas. Quand on a fait le mariage pour tous, on a dit PMA, non. Mais ce qui me frappe, pardonnez-moi, c'est que quand il parle de démographie et de la nécessité de relancer la natalité, de quoi parle-t-il ? De la PMA. C'est-à-dire que dans son imaginaire, je reviens à mon idée, si vous voulez, parce que qu'est-ce qui s'est passé avec la PMA et la GPA ? Pourquoi, pour moi, ce sont des phénomènes qui vont bien plus loin que des techniques médicales ? C'est parce qu'elles permettent la reproduction sans sexe. Elles permettent la reproduction sans la rencontre avec l'autre sexe. La rencontre se fait dans un tube à essai.
L'altérité.
Comment ? Voilà. Et donc.
L'altérité.
Voilà. Non mais vous pouvez être deux femmes ou deux hommes. Alors les hommes encore, ils voient la mère porteuse souvent. Ils la voient. C'est une femme qui existe. Dans le cas du donneur de sperme, si vous voulez, c'est un tube à essai, il n'existe pas. Et je suis quand même frappée par le fait que quand il parle de réarmement moral, il parle tout de suite de PMA, c'est-à-dire on va industrialiser la fabrication des enfants. Excusez-moi, je suis quand même un peu sceptique sur tout ce progressisme échevelé.
Arnaud Benedetti, vous êtes aussi sceptique pour conclure sur ce sujet ?
C'est-à-dire qu'en fait, ça touche quand même à des questions qui sont d'ordre anthropologique, hein, ça. À partir de quel moment la technique, on a le droit d'utiliser la technique pour changer un ordre anthropologique qui est quand même un ordre anthropologique qui, depuis que l'humanité est l'humanité, opère comme il opère. Ça, c'est une vraie question. Il y a une espèce, j'allais dire, de fascination pour la technique qui, parfois, doit nous amener à réfléchir. Et je rejoins là ce que dit Elisabeth Lévy, c'est que, finalement, on voit que tout ce qui a été, in fine, projeté techniquement, pose en effet un certain nombre de questionnements éthiques à un moment donné, mais est in fine toujours validé et avalisé 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard. C'est ce que disait Jacques Ellul, vous savez, qui a beaucoup réfléchi sur la technique dans les années 60 et 70. Il disait, qu'est-ce que sont les comités d'éthique ? In fine, ce sont des jardins d'acclimatation qui permettent à un moment donné à une technique de devenir, j'allais dire, d'usage courant et accepté par le politique et par la société.
Arnaud Benedetti, Elisabeth Lévy, vous restez avec nous, on poursuit les débats, on va changer de sujet, on va parler des universités occupées, mouvement pro-palestinien de la part des étudiants, avec un certain nombre d'évacuations qui ont déjà été décidées. Eh bien, on réagit, on en parle dans un instant, vous voulez bien ?
Allez. Avec joie.
Allez, à tout de suite sur Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise.
Que vous soyez plutôt chien, plutôt chat, lapin ou même poule, tout ce qui compte pour nous, c'est que vos animaux et vous soyez heureux. Avec l'application Maxiso, profitez de centaines de réductions sur ses produits préférés, de conseils d'experts pour prendre soin de lui, commandez en ligne et retrouvez même l'historique de vos achats directement dans l'appli. Alors foncez, téléchargez gratuitement l'application mobile Maxiso et ne ratez plus aucune occasion de faire des économies. Chez Maxiso, nous sommes heureux quand vous l'êtes. Maxiso, tout pour vos animaux.
On va aux courses de chevaux dimanche ? Il y a plein d'animations et c'est gratuit pour les enfants.
Dimanche 12 mai, venez faire la fête sur l'hippodrome de Carcassonne de 14h à 18h. Spectacle pour toute la famille. 06 08 89 47 68.
Ça, c'est Manu, qui a vu la nouvelle offre quantité limitée chez Bricoman. Et c'est qu'il a raison d'être pressé. Le revêtement de sol stratifié AC5 10 mm décor chêne naturel est à seulement 10,49€ le mètre carré. Oui, 10,49€ le mètre carré. Alors, on se dépêche d'aller chez Bricoman. Bricoman, pro avec un grand M. Offre limitée à 9 256 colis de 1,73 mètre carré, soit 18,14€ le colis à partir du 7 mai dans les magasins dépôt Bricoman jusqu'à épuisement des stocks.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Grâce à votre promo sur le dentifrice Colgate, mon ado a enfin les dents propres.
Ah, tant mieux.
Ah oui, c'est un vrai progrès. Mais maintenant, vous n'auriez pas une astuce pour le faire sourire? Parce que du coup, on aimerait bien les voir, ses dents.
Rassurez-vous, ça ira mieux avec l'âge. Et du 7 au 18 mai chez Leclerc, profitez de 34% de réduction sur le lot de 3 dentifrices Colgate Total. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc, soit 15,82€ le litre. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Renault. Le prix du carburant augmente, mais vous n'êtes pas prêt à passer à l'électrique. Faites des économies avec la motorisation Renault E-Tech Full Hybrid. Jusqu'à 40% de consommation de carburant en moins et jusqu'à 1100 km d'autonomie. Renault Austral E-Tech Full Hybrid. À partir de 380€ par mois et 2 mois de loyer offert.
Austral Evolution E-Tech Full Hybrid 200 hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4 500€, deuxième et troisième loyer offert. Offre à particulier du 1er au 31 mai si accordiaque, voire conditions sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Carrefour. Quand vous me dites du soleil, une plancha, la vie quoi? Eh bien, je vous réponds qu'avec 50% de remise immédiate, la plancha Medec France avec plaque de cuisson XXL 90 par 23 cm est à 24,99€ seulement au lieu de 49,99€. Et c'est jusqu'au 20 mai chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Référence MED026B, garantie légale 2 ans, détails sur carrefour.fr.
Kiabi, partenaire de votre pouvoir d'achat. Les best-sellers chez Kiabi, c'est votre sélection de vêtements incontournables au meilleur rapport qualité-prix. Des pièces stylées, confortables et indispensables pour petits et grands, comme le t-shirt imprimé, fille ou garçon, à 2€. C'est comme ça que Kiabi en fait toujours plus pour les familles. Kiabi, la mode à petit prix. Sur articles signalés, best-sellers, les produits préférés, conditions, magasins et kiabi.com.
Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise.
9h21, nous sommes toujours avec Arnaud Benedetti, Elisabeth Lévy pour poursuivre ces débats avec un nouveau sujet. Les mobilisations pro-palestines dans les universités, la Sorbonne qui était occupée a été évacuée par les forces de l'ordre cette semaine. 88 personnes placées en garde à vue, évacuation également du côté de Sciences Po. Tout à l'heure, on avait Alexis Poulain qui nous disait, bah voilà, ces évacuations, je demandais est-ce que ça sonne le début de la fin pour ces mouvements. Il disait non, c'est pas le début de la fin. Au contraire. Elisabeth Lévy, qu'en pensez-vous?
Alors d'abord, je n'appelle pas ça des mobilisations pro-Palestine. Parce que on peut tous être pro-Palestine, on peut tous souffrir pour les civils palestiniens. Ça, il n'y a aucun problème. Moi, j'appelle ça des mobilisations pro-Hamas ou anti-Israël. Le slogan « From the river to the sea », du fleuve à la mer.
Ça veut dire que Israël n'a plus sa place. En gros, c'est ça. On va revenir vers vous, Elisabeth Lévy. Arnaud Benedetti, je vous voyais faire non de la tête. C'est pas le début de la fin, selon vous, de ce mouvement?
Ah non, non, moi je pense que... D'abord, je considère que ces mobilisations sont quand même minoritaires.
Tout à fait.
Moi, il se trouve que j'enseigne, donc... Je rencontre des étudiants. J'ai pas eu de difficulté d'ailleurs à faire des cours ces dernières semaines, fort heureusement, et je suis à la Sorbonne. Alors, ouais. Je crois qu'en effet, il faut quand même relativiser ces mobilisations. Elles sont le fait de groupes politiques qui sont très actifs, qui ne sont d'ailleurs pas toujours.
Qui sont des étudiants.
Le fait des étudiants, mais qui peuvent être le fait des étudiants, mais pas seulement. Je veux dire, il y a des forces politiques derrière. Et qu'elle reste pour l'instant minoritaire. Ça, je crois que c'est un point important. Elles sont bruyantes, mais minoritaires. Ensuite, est-ce qu'il peut y avoir un effet de mimétisme dans les semaines qui viennent? Bon, il y a déjà, je pense, le fait que quand même nous sommes en fin d'année universitaire, ce qui réduit forcément la capacité de mobilisation de ces groupes. Ensuite, il faut quand même aussi relativiser quand on regarde, par exemple. Les préoccupations des étudiants lorsqu'on les interroge sur leur orientation électorale, majoritairement, et même des jeunes plus largement, on voit pas, je ne vois pas que le conflit qui se déroule actuellement en Israël constituent leur priorité. Donc je crois que déjà il faut quand même encore une fois recontextualiser ce qui est en train de se passer.
C'est important.
Ensuite, après, sur le plan des principes, il est tout à fait inacceptable que des minorités bloquent des établissements d'enseignement supérieur, empêchent des étudiants de pouvoir passer leur partiel, empêchent des étudiants de pouvoir aller dans les bibliothèques universitaires. Tout cela, bien évidemment, nécessite que l'ordre soit rétabli. On a bien évidemment le droit dans une université, c'est la liberté académique de débattre, et il faut débattre, c'est indéniable, mais on ne doit pas user de ce droit pour entraver le fonctionnement de l'université. C'est, je crois, élémentaire.
Pardon, moi, je pense quand même que c'est plus grave que ce que vous nous dites. D'abord, je vois ce qui se passe sur des campus ailleurs. Sur les campus américains, c'est devenu assez violent.
On a entendu des vivas intifada.
En plus, ce sont des minorités, mais des minorités qui, dans certaines facs, sont assez puissantes à Nanterre, etc. Moi, j'y suis allé pour faire une enquête sur les étudiants juifs qui ont la trouille, si vous voulez. Il y a quand même ce phénomène qui devrait quand même, excusez-moi, nous alerter un peu plus que nous le faisons, qui est que des étudiants juifs dans toutes ces facs ont peur parce qu'ils sont juifs. Ça me paraît quand même un peu problématique. Et j'ajoute que tout ça s'inscrit dans une idéologie générale que je dirais extrême gauchiste, wokiste et islamiste un peu à la fois, hein, même si c'est des alliances bizarres, et que cette idéologie, elle touche beaucoup de profs. Et dans beaucoup de facs, maintenant, par le mode de nomination des profs, fait que, si vous voulez, c'est ça maintenant le corps enseignant. Donc moi, je crois que c'est plus grave que ça. Je m'étonne, je vois bien que ces étudiants, quand il y a des milliers, des dizaines de milliers de Soudanais qui sont massacrés par un régime épouvantable, est-ce que ces étudiants, ça leur pose problème? Non. La seule chose qui les intéresse, c'est quand des gens sont tués par les Juifs, par Israël et par les Juifs. Ça, là, ça devient intéressant. Donc, excusez-moi, il y a quand même un phénomène inquiétant et à l'échelle mondiale.
Arnaud Benedetti, je rappelle donc professeur à la Sorbonne. Justement, vous êtes pour répondre à Elisabeth sur ce point.
Je pense que, si vous voulez, ma réaction était d'abord sur un plan quantitatif. Je tout disais qu'il ne faut pas réduire tous les étudiants de France et de l'APA aux minorités qui sont dans la rue Saint-Guillaume ou qui sont place de la Sorbonne pour bloquer le fonctionnement de l'université. Donc ça, c'est un point. Je crois que c'est d'ailleurs un point important parce que pour expliquer que ces gens-là ne sont pas majoritaires. Donc ça, je crois que c'est dans un système démocratique une base qu'il faut rappeler. Ensuite, moi, je ne dénie pas le fait que ce qu'ils peuvent dire ou raconter, en effet, est grave. Ce qui, en effet, quand on empêche à l'université de Yale des étudiants juifs de pouvoir rentrer dans l'université parce qu'ils sont juifs, ce sont des images et ce sont des actes qui sont absolument insupportables et qui doivent être condamnés de la manière la plus catégorique qui soit. Mais je ne veux pas confondre, si vous voulez, la grande majorité des étudiants aux minorités agissantes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas combattre ces minorités agissantes. Il faut bien évidemment les combattre. Il faut les combattre par le débat. Il faut les combattre lorsque, évidemment, elles bloquent le fonctionnement des universités. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose justement, il ne faut pas tomber dans leur piège. Leur piège, c'est de dire « nous représentons la jeunesse ». Moi, l'autre jour, j'étais sur un débat avec une étudiante représentante de l'UNEF qui nous expliquait « Ah, la jeunesse ». Je lui dis « Vous n'avez pas le monopole de la jeunesse ». Tout simplement, une grande partie de la jeunesse ne partage pas vos orientations.
Oui, enfin, il y a quand même, pardon Arnaud, une majorité
ne sont pas d'accord avec vous.
D'abord, il y a ce climat de terreur, enfin de terreur en tous les cas, de sectarisme qui fait qu'un certain nombre de gens peuvent plus s'exprimer dans les facs les mêmes. Non, parce qu'on leur interdit, parce que les conférences sont interdites, sont annulées, etc. Mais surtout, moi je vois ce sondage qui a été fait auprès, je crois, des 18-24 ans en France, où il y en a un gros tiers qui pense qu'il est légitime de s'en prendre aux Juifs parce qu'ils soutiennent Israël. Excusez-moi, mais là on n'est pas simplement vraiment dans des ultra-minorités. On a une idéologie qui est en train, si vous voulez, dans d'autres domaines, on voit bien, par exemple, sur les questions de la laïcité, vous voyez bien que le nombre de lycéens en France qui pensent que la loi de 2004, c'est une loi horrible, est de plus en plus grand. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a une idéologie qui pénètre peu à peu, quand même, pas seulement les petits groupes qu'on voit s'agiter, cher Arnaud.
Arnaud Benedetti, c'est-à-dire un mouvement minoritaire, mais qui peut gagner en puissance, oui.
Oui, il y a une imprégnation indéniable. C'est une réalité. Je le constate également. Mais ça n'en demeure pas moins une minorité. Et il faut le rappeler. Il faut le rappeler en permanence. Encore une fois, il ne faut pas donner le sentiment que aujourd'hui, la plupart des jeunes et la plupart des étudiants sont derrière ces mouvements. Il faut justement rappeler à ces mouvements qu'ils n'ont pas le monopole de la jeunesse, qui n'ont pas le monopole du débat, qui n'ont pas le monopole de la démocratie. D'ailleurs, ils ne l'ont pas, le monopole de la démocratie, parce qu'ils ne veulent pas la démocratie. Ils ne veulent débattre qu'entre eux. Donc, ils ne veulent débattre que dans leur entre-soi militant. Donc, ça, je suis tout à fait d'accord. Il faut, en effet, le dénoncer et le combattre. Mais je pense qu'aussi, il faut rappeler à ces gens qu'ils sont minoritaires. Ça me paraît important pour mieux les combattre.
Très bien. Puis, ça me fait plaisir à entendre. Voilà. Merci. Au moins, c'est une petite bonne nouvelle à entendre.
Bon, merci beaucoup, en tout cas, Elisabeth
merci.
Lévy. Un grand merci, Arnaud Benedetti, d'avoir été avec nous
merci
ce matin
à vous.
Sur Sud Radio. C'était un plaisir. Professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et puis, je rappelle le titre de votre livre, aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, point d'interrogation, c'est aux éditions Michel Lafon. Merci à vous deux, 9h30 sur Sud Radio, on revient dans un instant avec vous. Oui, vous réagissez à l'actualité, vous parlez de votre quotidien, vous témoignez, 0826 300 300, je vous attends, c'est Aude qui vous accueille au standard, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. Ça s'est passé sur Sud Radio.
Vous savez combien on a de fournisseurs, André, d'électricité en France ?
Non.
Une centaine. Avant, on en avait un, c'est EDF. Maintenant, on a 100. Ouais, on est passé de 1 à 100. Quel est le bénéfice pour le consommateur d'avoir 100 fournisseurs d'électricité ?
Aucun.
Qu'on en ait 1, 2, 3 peut-être, Total, Engie, pourquoi
Total
pas
Engie, oui.
100, ça sert à quoi ? Surtout que la plupart de ces gens-là, je le rappelle, ne produisent pas d'électricité.
Sud Radio, parlons vrai.
Si tu dors mal à cause des stores en panne,
Service Store trouve la pièce qui te dépanne.
2000 pièces made in France ou en Europe.
Moteur de store, volet roulant toujours au top.
Alors pour un sommeil réparateur,
répare tes stores chez un leader.
Connecte-toi sur servicestore.com.
Servicestore.com, choix et qualité,
c'est tout comme.
Écoutez Sud Radio Lyon en DAB+.
Sud Radio.
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de grosses crevettes est à seulement 7,49€.
À ce prix-là, je vais en faire tout un plat.
De quoi vous faire de belles assiettes. D'ailleurs, vous m'en garderez une, hein ?
Bien sûr que oui.
Auchan, avec plaisir. 7,49€, le kilo de crevettes entières cuites réfrigérées. Penaus Vanamei, 25 à 35 pièces au kilo. Élevé en Équateur. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Là, vous entendez. Et vous vous dites, bonne idée le roi Merlin, j'ai plein de temps et plein de petits travaux à faire. Sauf que là, quand je dis qu'avec le programme de fidélité Le Roi et moi, jusqu'au 14 mai, vous bénéficiez de 15€ de remise immédiate tous les 150€ d'achat, là vous vous dites, ok, eh ben y a plus qu'à s'y mettre.
Le roi Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir.
Conditions et modalités de l'offre en magasin ou sur leroimerlin.fr.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, ils sont à 4,49€.
Les abricots ?
Eh oui, en ce moment, ils font le kilo d'abricots à 4,49€.
Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Et avec l'application Lidl Plus, il y a moins 15%, soit 3,82€ le kilo d'abricots. J'en prends ?
Tu prends rien, et t'as intérêt à te mettre à l'abri, mon coco.
Abricots.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Catégorie 1, origine Espagne. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Dites donc, cher voisin, on s'est offert une pergola.
Oui, une pergola bioclimatique à prix direct usine. Et je l'ai montée moi-même.
Et tu l'as dénichée où, cette petite merveille ?
Sur usineonline.com. Tu choisis tes options et dimensions. Tu trouves tout. Des pergolas, stores, carports, portes, portails, peintures.
Des fenêtres et volets aussi ?
Tout. Et en ce moment, ils sont en promotion à moins 30% avec livraison offerte.
Usineonline.com ? Faut que j'en parle à ma femme. Chérie !
Usineonline.com. Cliquez, commandez et profitez.
Au printemps, rien de tel qu'une sortie paddle au grand air.
Moi, mon kiff, c'est le kayak.
Ah, alors je reprends. Au printemps, rien de tel qu'une sortie kayak au grand air.
Vous voyez quand vous voulez.
De toute façon, chez Decathlon, on a sélectionné un paddle transformable en kayak. Et pour vivre le sport grandeur nature, cette semaine, le pack stand-up paddle avec pagaie et pompe est à 299€ au lieu de 399, soit 100€ de réduction. Decathlon, élue meilleure chaîne de magasins de sport de l'année.
Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise.
Sud Radio, il est 9h34, parlons vrai sur Sud Radio, vous le savez, vous voulez témoigner de votre quotidien, je vous le disais, réagir à l'actualité, pousser un coup de gueule, partager un coup de cœur, c'est simple, hein, vous nous appelez 0826 300 300, c'est Aude qui vous attend au standard. Mais d'abord, Emmanuel Macron qui réitère donc son opposition à la GPA, la gestation pour autrui, qui reste interdite en France. Mathieu, bonjour. Mathieu, bonjour.
Oui, bonjour, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends très bien, c'est bon, on vous a trouvé. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Mathieu, vous avez décidé avec votre femme d'avoir recours à la GPA malgré son interdiction en France. Combien avez-vous d'enfants nés par GPA, Mathieu ?
Eh ben, on n'en a pas beaucoup, hein, parce que voilà, on a eu deux, on a deux filles.
Deux filles, de quel âge ?
Alors la première a 10 ans et la deuxième a 4 ans.
10 ans et 4 ans. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, Mathieu, vous avez commencé à envisager la GPA comme solution pour avoir des enfants ? Vous avez des difficultés à en avoir peut-être avec votre femme ?
Nous, en fait, c'était assez clair qu'on avait une grosse difficulté dès le départ, puisque ma femme est naissance utérus. Donc, donc là, c'était assez clair à ce niveau-là. Donc, ça permet vraiment de mettre les choses à plat. Et donc, on n'avait pas forcément 50 solutions devant nous. Et comme on entend beaucoup, on entend parler en France à d'adoption, donc on s'est lancé un petit peu dans cette démarche-là et on a vite compris que c'était pas aussi simple que ça.
Que le temps d'attente était vraiment. Il y a beaucoup d'obstacles.
Et plus le temps d'attente. En fait, il y a un temps d'attente énorme et en fait très peu d'enfants finalement adoptables, et tant mieux parce que les pays gèrent souvent ça maintenant. Donc au niveau interne, et donc en fait, il y avait un temps d'attente énorme. On s'est dit, 7-8 ans sans garantie. On a commencé un petit peu à fouiller ailleurs, et on avait déjà un tout petit peu entendu parler de la GPA, et c'est un peu comme ça, de façon naturelle, qu'on est parti un petit peu sur cette deuxième piste, quoi.
Vous aviez quel âge, Mathieu, lorsque vous avez décidé de recourir à cette GPA?
Du coup, on était, entre guillemets, assez jeunes, un petit peu dans l'âge moyen, on va dire, du Français qui veut avoir un premier enfant. On était un petit peu, avant la trentaine, on va dire, autour de 27-28 ans.
Racontez-nous comment ça s'est passé concrètement, parce qu'on entend beaucoup parler de la GPA, on a les pros, les anti, mais c'est vrai que c'est important aussi de revenir aux bases, au concret, comment ça se passe. Il a fallu d'abord trouver une mère porteuse dans un pays étranger où c'est autorisé.
Oui, tout à fait. En fait, nous, en aucun cas, on voulait mettre en danger notre futur enfant en faisant n'importe quoi. Donc, on s'est beaucoup renseigné avant. On est passé notamment par des couples qui étaient déjà qui avaient déjà fait ce parcours, notamment par l'association Clara, qui est assez connue à ce niveau-là. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on a pris les premiers contacts de familles en fait qui avaient déjà fait ce parcours. Donc, ça paraissait un parcours très compliqué, insurmontable par rapport à notre âge. Mais après, on a découvert comme des familles qui nous ressemblaient, entre guillemets, simples, avec un métier simple. Et on s'est dit, on va peut-être essayer de se lancer là-dedans. Et puis, en fait, on se rend compte que, notamment dans les pays où c'est légalisé, que depuis très longtemps, que ce parcours fait partie vraiment de leurs mœurs, quoi. Et donc, c'est très, très éloigné, justement, de ce qu'on peut dire en France. Donc,
Vous avez fait appel donc à une mère porteuse aux États-Unis. Comment ça se passe, la rencontre, la mise en relation ?
Alors en fait, c'est assez simple là-bas. En fait, il y a des agences qui régulent un petit peu tout ça là-bas. Et en fait, c'est une rencontre. En fait, ça veut dire que on se choisit mutuellement. Ça veut dire que nous, en fait, au départ, on décrit notre désir, notre profil, et la gestatrice nous choisit. Et après, donc, nous, entre guillemets, on l'a choisi aussi dans le sens où on se rencontre, on échange et on voit si le courant passe, en fait. Mais avant tout, en fait, c'est elle qui nous choisit. Donc, c'est pas, comme on entend parfois sur un catalogue ou sur Internet, ou des femmes miséreuses. Il y a des choses qui sont dites qui sont complètement fausses, quoi.
Vous n'avez pas parlé néanmoins de quelque chose, Mathieu, dans ce que vous dites. Oui. Il y a aussi la question du prix. oui. entre guillemets, ça coûte combien d'avoir recours à une mère porteuse aux États-Unis aujourd'hui?
Ah bah aux États-Unis, donc c'est en fait voilà, il faut comparer les choses qu'on pense. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, tout ce qui est médical n'est pas gratuit puisqu'on n'a pas le même système qu'en France. Donc ça veut dire qu'en fait l'infertilité là-bas rentre dans ce cadre-là où de toute façon aux États-Unis, voilà, tout ce qui est médical est payant. En France, on a l'impression que c'est pas payant, mais en fait voilà, c'est payé en fait par notre pot commun. Donc voilà, faut comparer ce qui est comparable. Nous, justement, c'est pour ça qu'on se bat pour que en fait ça puisse être légal en France pour éviter justement que qu'il y ait des sommes à payer exorbitantes et que n'importe qui puisse le faire lors de cas d'infertilité. Quoi.
Sans parler de votre cas personnel, ça monte à combien d'euros? C'est juste pour avoir une idée, en gros, quoi.
Alors, ça dépend aux États-Unis ou au Canada, ça dépend des États, ça dépend après du parcours, des difficultés, mais voilà. Nous, c'était de l'ordre, en fait, de 100 000 euros. Parfois, c'est plus, voilà.
Ah ouais, c'est des sommes très, très importantes. La GPA, voilà, qui reste, en tout cas, aujourd'hui, interdite. Vous dites que vous êtes favorable, que vous demandez qu'elle soit autorisée, légalisée. Vous avez entendu, vous avez lu Emmanuel Macron, hein, qui a redit, lui, son opposition à la GPA hier. Je n'y suis pas favorable, a-t-il expliqué. Elle n'est pas compatible, je reprends ces mots, avec la dignité des femmes. C'est une forme de marchandisation de leur corps. Comment vous réagissez à ces propos, Mathieu? Ça vous révolte? Ça vous fait de la peine?
C'est surtout en fait que les gens ne connaissent pas forcément en fait la GPA, puisque ça ne se passe pas du tout comme ça dans le concret. Nous, en fait, là, on découvre un peu ce débat qui ressort, parce que en fait, là, on revient justement d'aller voir en fait nos deux gestatrices aux États-Unis.
D'accord.
Pendant les vacances là,
ouais.
et quand on en discute là-bas, en fait, ils ne comprennent pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune marchandisation. C'est-à-dire qu'elles le font vraiment pour aider les gens. C'est complètement farfelu de penser que c'est une marchandisation.
Mais vous comprenez que pour certains, ce soit une inquiétude, en tout cas, qu'on risque, qu'il y a ce risque-là potentiel, en tout cas, d'arriver à une forme de marchandisation. Vous l'envisagez, non, vous le comprenez ou pas?
On comprend qu'il y ait des craintes parce qu'il y en a qui n'aissent pas et voilà, qui pensent que c'est vraiment compliqué, mais voilà, c'est souvent par méconnaissance, puisqu'en fait, c'est comme assez simple à comprendre, dans le sens que c'est vraiment des personnes qui cherchent à aider, qui sont dans le don de soi. Enfin voilà, c'est nous, par exemple, notre première gestatrice, lorsqu'elle était enceinte de notre premier enfant, elle avait déjà 3 enfants, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, ces personnes-là doivent déjà en fait avoir des enfants aux États-Unis.
D'accord.
Alors, voilà, et quand elle était enceinte de notre premier enfant, elle était aussi famille d'accueil. Donc ça veut dire qu'en fait c'est des personnes qui sont dans le don de soi. Alors après, peut-être que des personnes en fait ne sont pas prêtes à le faire, et c'est normal, c'est quand même quelque chose de compliqué. Mais voilà, faut voir que nous, dans notre entourage, il y a plusieurs personnes qui auraient été prêtes à le faire sans marchandisation. C'est-à-dire que.
Mais ça veut dire que si on l'autorise en France, ce que vous dites, hein, c'est que il faut que ça soit encadré, quoi.
Encadré comme dans les autres cas en fait d'infertilité, quoi, avec notre cadre français, et là il n'y aurait pas forcément justement besoin de, il n'y aurait pas besoin d'argent, ce serait vraiment dans le cadre d'infertilité classique, quoi.
L'Europe qui a pris une décision importante, hein, concernant la GPA, ou plutôt l'exploitation de la GPA, c'est important de le préciser, puisque souvent ça a été assez mal rapporté, justement, cette décision. Donc c'est l'exploitation de la GPA qui a été visée. Que dit l'Union européenne? Elle dit que l'exploitation de la GPA est reconnue comme un crime, au même titre que l'esclavage ou la prostitution forcée. Là-dessus, vous partagez cette idée, voilà, quand on parle d'exploitation, en tout cas de la GPA, c'est peut-être mieux dit comme ça? Sur les inquiétudes.
Ce qu'il faut différencier, en fait, c'est les pays où il y a un cadre et où ça se passe correctement, et après, les pays où il y a des dérives. Ça veut dire que c'est comme dans tout système. Ou dans le don d'organes, c'est pareil. On sait très bien qu'il y a des dérives dans certains pays, et forcément, dès qu'il y a une sorte d'argent, il y a des dérives. Et donc là, c'est des circuits donc mafieux, et donc là, faut vraiment différencier les choses. Et justement, c'est pour ça qu'il faut un cadre légal en France, pour éviter ces dérives-là. Et s'il y a un cadre légal en France, il n'y aura plus ce problème pour les couples français. Ça veut dire que certains, en fait, partent dans des filières qui sont complètement, donc, compliqué, quoi.
Sans doute, peut-être une question un peu bête, Mathieu, mais les deux mères porteuses auxquelles vous avez fait appel, est-ce qu'elles ont, d'une façon ou d'une autre, hein, par rapport au droit américain, des droits sur les enfants qu'elles ont portés?
C'est là, en fait, où il n'y a pas de connaissance du sujet, c'est-à-dire qu'en fait...
C'est important on n'est pas forcément au courant de cela. Voilà.
En fait, ça se fait depuis très longtemps, et en fait, tout ce qui est filiation, etc., donc c'est déjà défini avant la naissance, il n'y a aucun... Voilà, ils ont, c'est vraiment clair, ça veut dire que on est les parents en fait directement en fait, voilà, elle a aucun droit sur nos enfants et voilà, et donc non, c'est vraiment clair là-bas quoi.
Comment ça s'est passé pendant la grossesse et au moment de la naissance là aussi, c'est encadré, comment vous avez fait à ce niveau-là?
En fait, c'est vraiment très clair, c'est-à-dire que on peut assister à la naissance si jamais donc la gestatrice est d'accord. Et par exemple, moi, ma femme a assisté aux deux naissances. Mm-hmm. Et voilà, c'était un moment de partage incroyable. Une anecdote là-dessus aussi, c'est que par exemple notre première gestatrice, elle a jamais pleuré en fait quand elle a accouché pour ses propres enfants, même si elle était très très heureuse. Mais là, de nous voir émue sur le premier accouchement, elle en a pleuré. Et voilà, elle dit, c'est incroyable comme moment quoi. Donc voilà, je pense qu'en fait, on diabolise beaucoup, alors qu'en fait, voilà, c'est vraiment des personnes qui le font pour donner aux autres. Quoi. Donc,
Par méconnaissance ou peur que ça soit pas suffisamment encadré, peut-être également. Mathieu, comment vos filles, 10 ans et 4 ans, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Comment vont-elles?
Elles vont très très bien, là, justement, elles rentrent des États-Unis là pendant leurs vacances, donc voilà, elles vont très très bien. Elles connaissent tout à fait leur histoire, elles comprennent très bien ce qui s'est passé avec leur âge bien sûr, mais voilà, donc elles vont très très bien.
C'est-à-dire que vous avez tout de suite joué carte sur table avec elles, vous avez été tout à fait honnête. C'est pas forcément évident. J'imagine qu'on se pose la question à un moment, est-ce qu'on attend peut-être l'adolescence ou qu'elle soit plus grande pour en parler, ou est-ce qu'on le dit tout de suite? Vous avez décidé d'en parler direct quoi.
En fait, nous, on avait déjà échangé avec les familles qui avaient déjà fait. Et effectivement, en fait, il faut en parler tout de suite. Il faut en parler tout le temps. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de leur histoire, qui est une très belle chose d'ailleurs. Donc, en fait, il y a toujours eu des photos à la maison, comme des photos de papy, de mamie, de maman. Et donc, en fait, elles la connaissent depuis toujours. On fait des Skype. Donc, en fait, c'est une personne en fait qu'elles ont toujours vue dans leur entourage. Et dès qu'elles ont pu en fait parler et comprendre, on leur a expliqué. Voilà. Et en fait, il y a aucun souci là-dessus. Quoi. Notre fille de 4 ans comprend très très bien voilà ce qui se passe. Hein. Donc, pour l'anecdote, d'ailleurs, elle a une remplaçante et il y a peu de temps. Donc, sa professeure des écoles s'est fait remplacer par une femme qui était enceinte de plusieurs mois. Oui. Voilà, elle a très bien compris ce qui se passait. Et puis, le soir à la maison, elle nous racontait tout ça en disant bah oui, maman, toi, tu m'as pas porté, etc. Enfin, voilà, elle comprend très, très, très bien. Et en fait, il faut arrêter de diaboliser.
C'est pas
ça,
traumatisant, enfin, oui.
C'est pas du tout traumatisant. Ouais. Voilà, ça fait partie de leur histoire. C'est plutôt quelque chose qui se passe de façon très positive, puisque c'est quelqu'un qui aide. Enfin, voilà, il y a vraiment. Il n'y a vraiment aucune difficulté par rapport à ça.
Vous demandez donc est-ce que la GPA soit autorisée en France. Aujourd'hui, elle ne l'est pas. Ça veut dire que ça se passe comment pour vos deux filles de 10 et 4 ans? Est-ce qu'elles ont été reconnues à l'état civil? Comment ça se passe pour elles à ce niveau-là?
Alors, il faut d'abord rappeler en fait que normalement, la France donc, devrait transcrire tous les états civils donc, qui viennent des pays où c'est légal, et donc elle ne le fait pas. Elle a été dénoncée par la Cour européenne des droits de l'homme. Mm-hmm. Et en fait, nous, on a eu la chance, dans le cas personnel, en fait, voilà, nos deux filles ont eu leur état civil transcrit. On est tombé donc pour la deuxième sur la jurisprudence du couple Ménesson, qui a fait vraiment avancer le débat là-dessus. Depuis, donc, ça a un petit peu changé, il y a encore blocage. Et pour notre première, c'est quand même assez rigolo, ça c'est en fait, comme on était jeunes, ils ont pensé en fait qu'on était au travail aux États-Unis, et comme par hasard, ça a été transcrit de façon naturelle. Donc, c'est quand même assez dingue, quoi, qu'on n'est pas capable de le faire correctement.
Mathieu, un grand merci pour votre témoignage ce matin sur Sud Radio. Je rappelle donc que vous êtes le père avec votre femme. Vous êtes les parents de deux filles donc nées par...
Oui, tout à fait.
Par GPA. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous et à votre famille, Mathieu. Merci beaucoup. 9h47 sur Sud Radio. Bah, ça vous fait réagir, témoignage assez fort à l'instant de Mathieu. C'est vrai que ça permet aussi de préciser les choses en ce qui concerne la GPA, parce qu'on en parle beaucoup, mais de temps en temps, on ne sait pas ce que c'est exactement. C'était l'occasion, effectivement, d'en parler très concrètement. Allez, 0826 300 300, vous voulez en parler, vous voulez parler d'autre chose, vous êtes les bienvenus, vous le savez, je vous accueille dans un instant, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise.
Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme la paire, vous offrent une réduction sur l'article que vous voulez? Du 8 au 13 mai, bénéficiez de 20% de remise sur votre article préféré. Fenêtre, cuisine, salle de bain, porte, escalier, c'est vous qui choisissez. 20% de remise sur l'article de votre choix, c'est en magasin ou sur lapaire.fr jusqu'au 13 mai seulement. Une offre comme ça, même chez la paire, il n'y en a pas deux. Conditions sur lapaire.fr.
Sud Radio Médoc.
103.2.
Sud Radio.
On peut penser qu'après l'expiration de sa garantie constructeur, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'un an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service. Valable pour les véhicules de moins de 73 mois et 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur Dacia.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous êtes étudiante, porteuse de projet ou déjà entrepreneur? Ne ratez pas la 10e édition du Be a Boss Tour. Une occasion unique d'échanger entre entrepreneurs, experts et professionnels de l'accompagnement de start-up et de l'entrepreneuriat féminin. Et de participer au Be a Boss Awards. Be a Boss Pays de la Loire, le 14 mai à la French Tech Nantes. Programme et inscription gratuite sur bi-a-bo2s.com. Avec Sud Radio, parlons vrai.
Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Électrique, hybride, essence, diesel et GPL. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Découvrez Renault Arkana Mild Hybrid, maintenant disponible en occasion dès 199 euros par mois. Arkana Business Mild Hybrid, 140 EDC d'occasion. LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer 4 000 euros. Offre à particulier jusqu'au 30 juin, si Accordiac, selon stock disponible, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Dans mon dictionnaire, ils mettent concombre, légume apprécié pour sa chair croquante et rafraîchissante.
Oui, et ?
Et c'est incomplet, parce que c'est concombre français, légume apprécié pour sa chair croquante et rafraîchissante.
Vous avez raison. Et pour son prix. Car du 7 au 11 mai chez Leclerc, les concombres Origine France sont à 1,16€ le lot de 2. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 58 centimes la pièce du lot indivisible, catégorie 1, calibre 300-400 grammes, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
On vous écoute, mademoiselle.
Merci, monsieur Géniaud. En ce moment, pour l'achat d'une véranda Rénoval, la TVA est offerte. Ma véranda, c'est Rénoval.
Point final.
Conditions sur Rénoval.com.
Grand frais.
Bonjour, c'est le traiteur. Alors, pour votre cérémonie de demain, je peux pas. J'ai grand frais. Ils ont de savoureuses myrtilles bien parfumées, comme je les aime. Bon, en commençant à préparer les toasts maintenant, ça devrait le faire pour vos 300 invités. C'est bien ça, hein?
Grand frais, c'est 300 fruits et légumes ultra frais disponibles chaque jour. Et jusqu'à jeudi, les myrtilles sont à 80 centimes les 100 grammes. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais!
Le meilleur marché.
Soit 7,99€ le kilo. Origine selon arrivage précisé sur le lieu de vente. Magasin ouvert ce matin de 9h à 13h. Liste horaire sur grandfrais.com.
Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise.
Sud Radio, il est 9h51. Vous réagissez à l'actualité, vous réagissez peut-être au témoignage aussi de Mathieu que vous avez entendu, qui a eu recours à la GPA avec sa femme et qui a aujourd'hui deux filles de 10 et 4 ans. Ça vous fait réagir 0826-300-300. Aude vous attend au standard. Et c'est Sarah qui nous attend pour commencer de Nîmes. Bonjour Sarah.
Bonjour Benjamin.
Et bienvenue sur Sud Radio. Vous avez entendu à l'instant le témoignage de Mathieu, hein, je le disais, donc, qui a eu recours avec sa femme à la GPA, puisque sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Ça vous fait réagir, Sarah? Que pensez-vous justement de ce témoignage?
Je ne sais pas s'il faut y penser quoi que ce soit. Moi, je trouve qu'on est dans une société où les gens n'hésitent pas à juger, à condamner très très vite. Moi, je crois que ce que j'ai entendu, c'est une famille très équilibrée, une énorme réflexion, quelque chose qui a été très pensé, très calculé. Je crois qu'ils ont tout fait, comment puis-je juger, mais que tout a été fait pour le mieux des enfants, et c'est formidable. Et je suis très heureuse pour eux. Qu'est-ce que je vous dise d'autre?
Et ils sont heureux.
À côté de ça, il y a des gens qui font n'importe quoi.
Effectivement, c'est ce que disait Mathieu aussi, c'est que après, si on autorise cette GPA en France, faut encadrer. Mais bon, c'est comme tout ce qu'on autorise aussi, voilà, faut des lois pour encadrer tout cela, pour éviter les dérives. Il y a des dérives à tout. Après, on en pense qu'on en pense, la GPA, mais c'est vrai que c'est important aussi quand on en parle, quand on a un avis là-dessus, de savoir ce qu'il en est réellement, concrètement. Vous, alors, en entendant ce témoignage, mais plus globalement sur la GPA, est-ce que vous étiez favorable ou pas à son autorisation en France? Vous en êtes où de cette réflexion? Est-ce que vous avez déjà eu cette réflexion? Est-ce que vous en avez déjà parlé avec autour de vous, quoi?
C'est quand même un débat qui se pose.
Bien sûr.
Par rapport à ce que vous dites sur le cadre, C'est là que j'aurais peut-être une nuance, parce que on a tendance à poser des cadres en permanence sur les sujets de société où justement il faut peut-être pas trop cadrer. C'est-à-dire qu'on a des interventions d'État dans des domaines qui, à mon sens, ne relèvent pas de l'État. C'est-à-dire qu'il faut au contraire faire du cas par cas et pas légiférer, parce qu'on prend toujours des... Vous savez que depuis 7 ans, on a 4 fois plus de lois qu'avant. Et ces lois, en fait, se recoupent, et au lieu de faire un toilettage et de nettoyer les lois ou de les appliquer tout simplement, on rajoute des lois. Moi, je pense qu'au contraire, il faut faire du coup humain, étudier les situations une par une, remettre de l'humain là où il y a toujours plus d'informatique, et étudier les cas un par un. Il suffit de rencontrer cette famille et d'écouter Mathieu pour voir que ce sont des gens extrêmement raisonnables et responsables. Et ces gens-là, il faut les écouter, il faut les aider, mais pas arriver avec un marteau législatif qui va au contraire leur interdire.
Ça me fait penser, Sarah, alors un autre sujet évoqué par Emmanuel Macron, qui donc a réitéré son opposition à la GPA, mais qui a dit autre chose. Il a dit qu'il était favorable à un devoir de visite pour les pères absents, en ce qui concerne les parents séparés. Ça rejoint ce que vous dites, là où on va trop loin.
C'est comme l'histoire de la loi sur interdiction de la fessée, etc. Je veux dire, on passe son temps à faire des lois. Moi, j'aimerais mieux qu'ils s'occupent plus sérieusement de l'école, qui est dans un état catastrophique, ou de l'immigration, où là, il y a besoin de lois nettement plus énergiques, que de s'occuper de choses qui relèvent de la vie privée et sur lesquelles, excusez-moi, mais un président qui n'a pas d'enfant, moi, je n'écouterai pas trop ce qu'il a à dire. Personnellement, j'ai une expérience de ça. J'ai élevé mon fils tout seul avec un père qui n'a pas voulu être là. Mmh. Et je sais que j'ai refusé d'obliger cet homme à venir voir cet enfant. Il est venu s'il voulait bien. Et quand j'ai essayé de le forcer, ça a été catastrophique. Ils se sont battus, etc. Donc je crois qu'un homme de 35-36 ans...
Est-ce que c'est lui qui ne voulait pas ? C'est lui qui ne voulait pas, justement
Ce qui s'est passé, c'est que il y a beaucoup de femmes qui connaissent cette histoire. On vous dit qu'on veut un enfant, puis après, il vous dit qu'il n'en veut plus. Nous, on essaie de faire pour le mieux pour notre enfant. Je sais que si j'avais accepté son deal, c'est-à-dire je vous paye, et puis du coup, je ne vois pas mon fils, moi, je n'ai pas accepté ça. Donc, je l'ai obligé à venir. D'une certaine façon, j'ai appliqué ça. J'ai fait un devoir de visite. Ça s'est très mal passé. Le lien ne s'est pas passé. Ils se sont battus. Et puis, il y a 2 ans, mon fils a maintenant 16 ans. Quand il avait 14 ans, père a dit, je ne veux plus vous voir, quoi. Donc, j'ai la chance d'avoir une vie.
Et tant mieux, en fait, à vous entendre, tant mieux, quoi. C'était nécessaire pour votre enfant, quoi.
Moi, je pense que c'est bien que j'ai obligé le père à le voir, mais malheureusement, on ne peut pas obliger un lien à se créer quand il ne se crée pas. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas... Il ne faut pas prendre des grandes mesures. Il faut regarder au cas par cas ce qu'on peut faire. Et puis, je vais vous dire, il suffit de regarder les lois. Je suis certaine que dans toutes les lois en vigueur, il y a des lois qui obligent déjà. Il suffit de les faire appliquer. Le problème dans ce pays, c'est qu'on n'applique pas les lois. Il y a des lois sur la paternité. Il y a des...
C'est pour ça qu'on rajoute d'autres lois. Sarah, c'est malheureux,
C'est ridicule. Alors, il y a un moment... Alors, en fait, c'est qu'on ne veut pas mettre d'argent dans les grandes fonctions régaliennes, comme la police. Et si vous avez des
parce que ça,
police,
indirectement, c'est de dire, voilà, les mères séparées, les gamins, ils font n'importe quoi, pour certains, et le lien, il a été fait aussi avec les émeutes, voilà.
Mais vous avez tout à fait
raison. On a une question sécuritaire, on n'arrive pas, finalement, au niveau sécuritaire à gérer, donc en fait, on lance ce débat-là, quoi. Je sais pas si c'est votre impression.
On lance des débats, balance des mesurettes qui servent à rien, pour ne pas mettre de l'argent dans la police, dans l'éducation, dans l'accompagnement. Mais si vous voulez, ça coûte de l'argent. Ils ne veulent pas mettre d'argent dedans. Ils préfèrent en mettre dans des gadgets. C'est ridicule. Je veux dire, moi je vois, je suis professeur, je vois l'argent qu'on met dans des AED, c'est-à-dire des assistants d'éducation qui ne peuvent pas faire grand-chose, et on coupe des postes de prof. Alors que le prof est justement l'autorité, c'est celui qui aide. Moi, j'écoute énormément mes élèves, je partage avec eux. Et si vous voulez, tout ce tissu social est complètement déglingué parce qu'on ne veut pas mettre d'argent dedans. Et c'est un problème d'argent, en fait. Alors, on balance des débats, on balance... Moi, je sais qu'il y a un débat à Matignon sur le devoir des pères. On a fait un groupe de travail et on demande une petite mesure concrète. Mais ce n'est pas ça le problème. Il faut injecter de l'argent dans les fonctions régaliennes et on refuse de le faire. Et tant qu'on refusera de le faire... Voilà. Et puis tout ça, à mon avis, c'est pour distraire aussi des gros sujets, des gros enjeux qui sont l'éducation, la police et l'immigration qu'on ne traite pas.
Oui, et puis
voilà,
on lance pas un sujet. Enfin, on lance pas. Lancer un sujet comme ça un mois avant les élections européennes, c'est vrai que bon, faut pas arrêter de vivre avec ces élections européennes. Faut continuer bien sûr, de légiférer, en tout cas, d'essayer de trouver des solutions aux problèmes de société qu'on a aujourd'hui. Mais bon, le timing aussi peut poser question. Merci beaucoup en tout cas, Sarah, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Continuez d'être fidèle à Sud Radio et ce numéro, donc 0826 300 300, vous le connaissez si vous voulez réagir à l'actualité. On se donne rendez-vous demain, même heure bien évidemment, avec Laurie Leclerc, que vous retrouverez d'abord à partir de 6h du matin. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le meilleur de Sud Radio Média, Valérie Expert et Gilles Gonzman, et puis dans la foulée, 10h45, les débats avec Stéphanie Demuru. Bonne journée à tous et à demain.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Je pourrais vous en dire long sur Debar Automobile, spécialiste de l'importation depuis plus de 25 ans. Offre très performante sur les véhicules neufs et d'occasion, reprise, financement, rachat de véhicules cash. Mais entre nous, quoi que je vous dise, le mieux, c'est de vous rendre dans la concession Debar la plus proche. Retrouvez toutes vos concessions sur debarautomobile.com. On ne va pas chez Debar par hasard.
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de tomates rondes en grappe est à seulement 1,39€.
À ce prix-là, je me vois déjà avec mon assiette de tomates mozzarella avec un filet d'huile d'olive.
Mmh, et moi donc. Et vous savez quoi? Elles sont même origine France.
Elles ont vraiment tout pour elles, ces tomates.
C'est ça, le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 1,39€, le kilo de tomates rondes en grappe. Origine France, catégorie 1. Valable dans vos magasins Auchan participants.
Oh! Ça, c'est Matt, qui vient de découvrir l'offre quantité limitée Bricoman. Ouais, ouais, il est vraiment content de voir que le pack WC Modena sans bride, abattant frein de chute, est à seulement 89€. Et c'est qu'il a raison, Matt, de vite se mettre en route vers son magasin dépôt Bricoman. Alors vous aussi, faites vite. Bricoman, pro avec un grand M.